avec Daniel Boudreau.
Daniel Boudreau, bonjour, merci d'être là.
Bonjour, bonjour.
On va faire ça de temps en temps. Nous, la dernière fois que tu es venu, on a laissé les auditeurs en plan. On va essayer d'en laisser le moins possible en plan. Et on va essayer de se parler au moins une fois ou trois semaines, une fois par mois, là, pour que tu puisses répondre aux questions sur les...
Aucun problème, je serai là au besoin.
OK, alors, on va commencer les questions. Vous pouvez évidemment faire 670-9330, qui est le meilleur moyen de parler à Daniel, parce que de vive voix, vous pouvez rajouter des sous-questions. Donc, 670-9330.
Oui, puis vous allez dire vous-même les modèles de voitures. On ne sera pas pognés pour essayer de paragouiner ce que vous nous écrivez.
Je les connais, les modèles de voitures.
C'est pas t'es bonne, toi, là-dedans.
Ben oui, on vient de faire un bloc à l'extérieur des ondes, là, il n'y a pas longtemps.
Ben oui, parce que je suis rendu au carrefour. Faut que je choisisse ma... Bon. Donc, on va commencer peut-être par une première question.
Vas-y, go.
Bonjour, question pour Daniel. Audi A5 ou Macan de base?
Ben là, on a deux véhicules complètement différents. Macan, on sait que c'est un sport utilitaire et la Audi A5, c'est une berline. On peut avoir la berline sport type Ayon dans le A5, là, à la A5 Sportback. Le Q5 serait beaucoup plus prêt parce que le Q5 et sur le Macan partagent la même plateforme. Donc, c'est le même squelette en dessous, mais habillé différemment. Le Macan est un peu plus chic et sport parce que c'est Porsche et l'autre, c'est la version Audi. Alors, que ce soit le Q5 ou le A5, si vous pouvez vous permettre le Porsche Macan, on y va. Puis là, on a un Porsche, puis on s'amuse avec Porsche, puis c'est le fun. Sauf que si vous voulez avoir quand même de bons rapports qualité-prix, faut s'en aller du côté de la Audi. Moi, la A5 Sportback, là, c'est une voiture que j'aime beaucoup conduire. Fait que si on veut pas un sport utilitaire, puis qu'on veut conduire, puis qu'on veut s'amuser... on s'en va de ce côté-là. Mais évidemment, là, si on compare un plus haut de gamme, Porsche Macan, c'est le fun à conduire. C'est vraiment... et surtout, là, on l'a rhabillé de façon un peu mieux. On a réaménagé l'intérieur, l'extérieur. Les lumières arrière, là, c'est rendu maintenant harmonisé avec le reste de la gamme. Nouveau Macan, moi, si vous pouvez vous le permettre financièrement parlant, on y va.
On parle de quel genre de prix, là, le Macan?
On parlait d'un 90 000 au lieu de 75 pour la 5.
Ah oui, donc on est dans...
80, tu sais, ça dépend du modèle de base, ça commence quand même à un prix intéressant, là, autour de 60-65, mais sinon on va... c'est sûr que ça monte un petit peu, surtout si on veut se gâter avec le Macan S.
Effectivement, l'auditeur vient de nous réécrire, il voulait comparer la Q5 et le Macan.
Bon, si on a les moyens, Macan. Si on veut avoir un bon véhicule, bon rapport qualité-prix, puis dire qu'on a la même structure que le Macan, on prend le Q5.
OK. veux-tu en poser une, Pascal?
Vas-y, je suis sur Facebook.
Le CRV hybride.
Mais non, mais je suis sur Facebook. Attendez, je suis sur Facebook.
Elle est occupée avec ses réseaux sociaux, là, s'il vous plaît.
La co-animatrice, Ariane, moi, tantôt, parce que je jouais du Angry Birds.
Non.
Mais elle est sur Facebook. Quand
je ne l'écoute pas.
Je suis sur Facebook pour aller voir les questions des auditeurs sur Facebook. Mon Dieu, que c'était spécial.
OK, on était... Le CRV hybride, c'est prévu pour quand?
CRV hybride, on vient juste d'avoir les détails du CRV hybride. Je sais pas si vous le savez, mais je pense que le CRV hybride n'est pas prévu pour ici immédiatement.
C'est ça, hein?
Donc, on va attendre de voir qu'est-ce qui va arriver avec ce véhicule. Pour l'instant, on l'a présenté pour les États-Unis, l'Amérique du Nord, et on est très vague pour le marché canadien. Donc...
Pourquoi, hein?
Je le sais pas pourquoi. Et pourtant, le système hybride de Honda fonctionne de façon merveilleuse. On le sait très bien. Honda ont été les premiers là, avec Toyota. Là. On s'est battu à quelques mois pour sortir nos véhicules hybrides. Et on a sorti un système où on place un moteur électrique entre la transmission et le moteur à essence. Donc, c'est simple. C'est efficace, ce système-là. Mais... l'expérience de Honda, là, je pense qu'on commence un peu à être un peu échaudé parce que Honda ne vend pas de véhicules hybrides. Honda a sorti une Civic hybride qui était incroyable. On n'a pas vendu dans les deux générations qu'on en a sorti. On s'est trompé un peu avec le look de l'Insight. Là. L'Insight, c'était pas une mauvaise voiture. C'était économique, mais c'était pas très beau à regarder.
Toyota a battu Honda à plate couture sur ces modèles-là.
Là, on sort le Clarity. Je pense qu'on s'est trompé un petit peu encore au niveau design parce que le véhicule fonctionne super bien. L'autonomie électrique est là, on n'en vend pas. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu échaudé du côté de chez Honda, surtout pour le marché canadien, mais on a besoin de véhicules hybrides ici au Québec avec nos lois et tout ça. Je peux pas croire qu'on va sortir un véhicule comme ça, surtout dans le segment populaire. Là, c'est les SUV. Tout le monde en a pour les SUV. Mmh. Donc, on veut du SUV. Pourquoi pas avoir l'hybride ici dans le CRV? Alors, j'espère que oui, on va arriver avec cette nouvelle version ici. Mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu.
Mais pendant ce temps-là, le RAV4 de Toyota est hybride et disponible.
Est hybride et donc, disponible. Et le rapport qualité-prix est excellent au niveau du RAV4. On a fait un très bon travail. Il est économique, il est doux, silencieux. Et on en fait même la version la plus sportive avec l'hybride. Donc, on s'amuse du côté de chez Toyota. On en vend énormément. Je vois pas pourquoi Honda regarderait pas du côté de Toyota. On regarde tout ce que les autres font. Là. Surtout du côté de Toyota, on est vraiment observé.
Pascal?
Oui, vous allez comprendre pourquoi j'étais concentrée. OK, Andrew te demande. On attend notre cinquième enfant. Oui, on doit donc se rendre à l'évidence. Ça va prendre un 7 passagers. Ceci dit, avec l'âge des plus vieux, on va être 7 environ 3-4 fois par année maximum, plus souvent 5 passagers ou 6. Les ados ont 15, 17 et 20 ans. Les deux plus jeunes seront en siège d'auto. Nous faisons principalement de la ville, mais quelques sorties à l'extérieur pour aller voir les familles en région. On souhaite quelque chose de pas trop gros, pas trop cher, mais pas trop mon oncle. On est dans le déni. On aimerait un VUS 7 passagers comme un CRV. On a vu un VUS hybride. Que nous conseillez-vous?
Ouais. Ben, on n'aura pas le choix. Il faut s'en aller du côté. Je pense que tu as nommé CRV.
Oui.
Il n'y a pas de 7 passagers dans le CRV. Mmh. C'est du 5 passagers. Et on va devoir monter d'une petite coche. Et sans nécessairement monter de prix. Parce que si on s'en va du côté du Sorento, par exemple, le Sorento de Kia,
il y a 7 passagers,
rapport qualité-prix excellent. Vous allez pouvoir y trouver votre compte dans ce véhicule-là, disponible en plusieurs versions. Donc, même vous pouvez aller dans le véhicule d'occasion si vous voulez pas aller dans le véhicule neuf. Vous allez avoir de l'espace dans le compact 7 passagers. C'est l'Outlander qui était disponible en version 7 passagers. C'est non. Sinon, ça va être la bataille de savoir qui va se ramasser là, la dernière rangée, surtout avec les ados. Là, on ne veut pas passer une demi-heure à séparer le monde qui se bat sur le trottoir à côté, qui ne veulent pas embarquer dans le véhicule. Donc, on doit quand même avoir de l'espace. Et surtout, avec cinq enfants, il y a du bagage qui vient avec ça. C'est peu importe la distance qu'on fait,
la poussette,
il y a du bagage qui vient avec ça. Donc, on doit se munir d'un petit peu d'espace. Idéalement.
Ou d'un trailer.
Ce serait de se trouver... Je comprends qu'on veut pas s'en aller du côté pépère, mais la mini fourgonnette, c'est l'idéal. C'est l'idéal.
Ça donc, fait très soccer mom, hein?
Oui. Je comprends, mais lorsqu'on part puis que tout le monde est confortable puis qu'on peut placer le bagage puis qu'on a l'espace nécessaire, là, ça prend tout son sens. Mais sinon, du style Kia Sorento, c'est vraiment le type de véhicule que vous devez aller chercher pour avoir l'espace, pour pouvoir mettre un peu de bagage et pour que les ados se détruisent pas entre eux.
OK. Je pensais qu'il était confortable, moi, le Outlander.
Ben, il est confortable à cinq passagers, mais à 7, c'est du compromis.
Parce qu'on a une question précisément sur le Mitsubishi Outlander SE 6 cylindres 2019. C'est le modèle que nous aimerions acheter et conserver au moins 10 ans. Nous aimons sa troisième rangée de sièges.
Oui, on peut l'aimer.
Qu'en
mais
pensez-vous?
Tant qu'on n'est pas assis dedans.
Oh boy, un beau décor.
Tu l'aimes à distance.
Okay.
Lorsque tu es conducteur, tu l'aimes, tu es content de l'avoir. Sauf que pour le véhicule, aucun problème, allez-y. C'est fiable et surtout, il est garanti 10 ans. Donc, vous entretenez le véhicule, vous protégez contre la rouille, protégez la carrosserie et vous faites les entretiens recommandés par le manufacturier. Il est garanti 10 ans, vous êtes certain que vous n'aurez pas de problème. Vous allez mettre des freins, vous allez mettre des petites affaires dessus. Mais sans trop. Donc, c'est un véhicule qui est garanti pour 10 ans. Vous l'entretenez, vous allez faire 10 ans. Et même à 10 ans, il va être très facilement vendable.
Et vous assoyez les gens que vous détestez dans la troisième rangée de sièges, c'est ça?
J'aurais pas dit ça de même. Là.
La belle-mère, mettons.
J'aurais pas dit ça de même, mais c'est ça.
GMC Sierra, est-ce mieux 5.3 ou le nouveau diesel? Que 5 pensez-vous point, ben, du nouveau GMC ou Chevrolet?
Bon, GMC, Chevrolet, c'est la même chose. Hein. C'est la calandre qui change et un peu l'intérieur, les couleurs intérieures. Sauf que diesel, faut avoir besoin du diesel. Si vous faites beaucoup de grandes routes, si vous tractez, si vous faites beaucoup de kilométrage, sinon, pour moi, pas besoin d'avoir le diesel. On y va avec le 5.3 ou le 5300. C'est un bon moteur, c'est un moteur éprouvé. Il est économique sur la route. Donc, avec le diesel et la version essence, vous ne ferez pas vraiment d'économie de carburant. Donc, c'est pas à la pompe que vous allez faire de l'économie, c'est sur la valeur de revente et c'est sur le long terme. Donc, vous allez pouvoir faire beaucoup de kilométrage. Et si on est toujours sur la route avec le même réservoir, vous allez faire peut-être un petit peu plus longtemps, mais en termes d'économie pure, vous en gagnerez pas tant que ça. Alors, pour moi, et vous allez payer beaucoup plus cher. Parce qu'il y a une valeur, là, 5-6 000 $ de plus. Alors, 5-6 000 $ d'essence de plus, vous ne mettrez pas ça en différence entre les deux. Alors non, on évoque la version essence. Si vous n'avez pas besoin du pouvoir, donc de la capacité de remorquage, de la version diesel.
OK. Question sur la Honda CR-V. Est-ce que c'est fiable un 2010, 103 000 km au compteur?
103 000 km, oui. Ben, les moins fiables... étrangement, ont été les versions récentes avec le moteur 1.5 turbo.
Ah ouais?
Ils ont eu quelques petits problèmes de jeunesse qui s'est réglé, selon les gens de Honda. 2010, 100 000 km, dépêchez-vous, sautez là-dessus, achetez-le, allez vous battre pour l'avoir et sauvez-vous avec. Donc, aucun problème, gardez ce véhicule-là. Si, 2010, il y a quand même 7 ans, là. Faut regarder quand, oui, partez avec, mais pas nécessairement les yeux fermés, juste un. L'autre, vérifiez si les pneus, les freins, s'il a été bien entretenu, etc., si le moteur tourne bien, s'il a bénéficié d'un entretien adéquat. Si oui, partez avec ça.
Je vous rappelle que vous pouvez parler directement à Daniel au 670-9330. Vous pouvez aussi nous envoyer votre question sur 25226 ou studio@fm93.com que Pascal surveille.
Oui,
c'est ça.
C'est ça.
OK. Y a quelqu'un qui nous dit que ça prend 4 mois à recevoir un RAV4 hybride. C'est-tu possible qu'ils aient de la misère à se fournir?
C'est possible qu'il y ait de la misère à fournir. C'est la stratégie de Toyota a été de réduire à 1400 $ de différence le prix entre la version hybride et la version essence. La nouvelle génération de RAV4 hybride fait en sorte que ça devient la version la plus puissante. Du RAV4. La plus douce aussi et, à mon avis, la plus intéressante. Donc, je pense que les gens ont compris de se tourner vers la version hybride. Alors, ça met beaucoup de pression pour... évidemment, on a de la misère à en trouver.
Okay.
Mais ça vaut la peine d'attendre. C'est présentement, probablement, l'un des véhicules qui garde le plus sa valeur de revente sur le marché.
Ah oui?
Donc, tu achètes un RAV4 hybride, tu le revends pratiquement le même prix et ça se revend très rapidement. Donc, la demande est forte. Toyota ont fait un bon coup avec ça. Et on sait que c'est fiable, on sait que ça peut faire du haut kilométrage. Donc,
Et Toyota profite du fait que Honda a dormi sa Switch.
Bien, que Honda a dormi sa Switch et là, avec le CR-V et les nouvelles, on va devoir réagir rapidement. Du côté de chez Honda, on va devoir prendre position, savoir si, oui ou non, on va avoir ce RAV4 hybride-là ici disponible au Canada. Parce que le marché est là, le marché s'en va dans cette direction. Et ton concurrent numéro un, donc on se compare toujours Honda, Toyota au niveau de la fiabilité, motorisation, ces affaires-là, on se regarde un et l'autre, puis on sait qu'on est des concurrents très proches. Si on laisse le marché complètement libre au RAV4 hybride et surtout aux versions hybrides du côté de chez Toyota, puis du côté de chez Honda, on sent qu'on est de plus en plus frileux. On va devoir s'affirmer un petit peu plus du côté de chez Honda.
Michel te demande ce que tu penses du Escape hybride. Ça, c'est Ford?
Ça, c'est Ford. Ben, ils l'ont abandonné depuis plusieurs années, oui. Là, on va avoir la nouvelle génération d'Escape. Et celui-ci va arriver dans la nouvelle mouture là, du... Et il est très beau. D'ailleurs, je l'ai vu à Saint-Tite, ce nouveau Escape hybride. Parce que Ford avait un espace à Saint-Tite où on présentait tous les nouveaux modèles. Et il y avait la nouvelle génération d'Escape et il y avait la version hybride qui était là. Alors, j'ai pas encore conduit, j'ai pas encore vu c'est quoi au niveau mécanique, donc j'ai pas encore essayé cette version-là. Mais si je me fie à par le passé, Ford avait un véhicule qui était quand même fiable et économique dans ses versions hybrides. Et son système hybride chez Ford, on le connaît dans Fusion et tout ça, rien à dire. Donc, c'est comparable avec Toyota et Honda.
C'est drôle, on n'en parle presque pas. Hein?
Non, Mais on devrait. Et on va en parler de plus en plus parce que Ford s'en va dans cette direction-là. On a annoncé un paquet de choses du côté de chez Ford. On a même annoncé un F-150 hybride. On a annoncé un F-150 électrique. Donc, probablement qu'il y a
F-150
ça, c'est
qu'il y a l'avoir branchable. Je devrais dire branchable. Oui, ça, c'est le gros camion.
C'est le pick-up là, que tout le monde...
C'est ce qu'ils consomment.
C'est ça. Les gens qui trippent environnement, ils pointent du doigt, ces gens-là.
Ben oui, d'avoir une Corolla hybride quand ça consomme déjà pas. L'économie de carburant n'est pas significative.
Ouais.
Un F-150, là, on est dans les véhicules qui consomment le plus. Alors, le gain va être énorme dans ces véhicules-là parce que dans les camions pleines grandeur, ce qu'on a réussi à faire, c'est beaucoup d'économies de carburant sur la grande route. Sur la grande route, là, c'est spectaculaire qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ces camions-là. On est passé du 18 litres à moins de 7-8 litres au 100 km quand tu es sur l'autoroute en ville. Là, ça consomme énormément.
Mais...
Sauf qu'avec une version hybride, là où on sait où les hybrides sont économiques, c'est en ville. Donc, c'est très logique d'avoir une version hybride, un moteur électrique qui va venir aider le moteur en ville, donc en circulation urbaine.
Est-ce que ça va se vendre? Parce que, je veux dire, la personne qui utilise un F-150 pour tracter puis pour tirer, est-ce que c'est le même candidat qui va acheter du hybride ou encore du électrique?
Ben, si c'est hybride branchable, puis tu as un moteur électrique qui vient aider, on va garder les mêmes capacités de remorquage, les mêmes capacités de charge.
Ça va être aussi fort?
Ça va être aussi fort, sinon plus encore, parce qu'on sait que le couple d'un moteur électrique, c'est très fort. Donc, on réussit à faire vraiment un grand pas en avant avec ce type de véhicule-là.
Okay.
Donc, moi, je te dis que c'est là qu'on va aller chercher les acheteurs. Et la mentalité des conducteurs de camions, t'es en train de changer. Là, on achète du 4 cylindres turbo, on achète du 6 cylindres dans leur camion. Il y a 15 ans, là, tout le monde a ritoué, là. Fallait pas que tu le dises. Tu sais, les gens achetaient du 6 cylindres, puis ils changeaient les cuissons sur le côté, puis ils collaient le V8 dessus.
Ben,
pour pas se faire écœurer par leur chum. Donc là, la mentalité a changé, là. Là, on est capable, là, de voir arriver, là, GM arriver avec une version 4 cylindres turbo. Alors, on commence, là, justement, à changer la mentalité. Et les versions hybrides, branchables, d'après moi, ça va avoir beaucoup de succès.
Mais tu parles-tu un peu de pneus, Dan?
Un peu, mais pas beaucoup. Ah,
parce qu'il y a quelqu'un qui a une auto de livraison qui dit Prius V 2016, 75% ville, 25% autoroute. Vous me conseillez quoi comme pneu d'hiver, meilleure qualité prix?
Ah,
ça te parle-tu, ça?
Non, ça me parle pas.
Bon, OK, c'est pas ton domaine, mais sinon,
je vous dis, quatre bons pneus d'hiver.
Ça, c'est
parfait.
Bon. Okay, c'est bon.
Parfait.
Sinon, il y a quelqu'un qui dit qu'il hésite.
Ça fait une grosse différence, ville ou route, là.
Ben c'est oui, parce que t'as des pneus neige et glace.
Ouais.
T'as des pneus qui sont moins agressifs. Si t'as des gens qui restent en montagne ou en région, sont un petit peu en région, puis c'est un peu moins bien déneigé, tu vas avoir des pneus plus agressifs pour la neige. Sinon, t'as des pneus qui sont moins agressifs pour sur l'autoroute. L'autoroute, c'est bien dégagé, normalement. Mm. C'est bien déneigé. Et là, on peut avoir des pneus qui sont moins agressants sur l'autoroute, puis qui font un meilleur travail, meilleure stabilité aussi. Donc, c'est important de le mentionner à son marchand de pneus. Moi, je fais de la route plus que de la ville. Tu vas avoir des pneus adaptés pour ça.
On va aller voir Guy au téléphone, si tu veux bien.
Oui.
Bonjour, Guy.
Bonjour, bon matin, vous deux.
Bonjour, bon matin.
Écoutez, moi, l'annonce ce matin, justement, des subventions pour les voitures électriques usagées.
Oui.
Mais dans mon cas, j'ai une certaine crainte parce que je fais souvent des distances de plus de 500 kilomètres. Est-ce que, de ce côté-là, il y a une crainte ou il n'y a pas de crainte dans le où vous voulez aller... électrique hybride ou seulement électrique avec moteur?
Là, vous avez commencé en disant qu'il y avait des subventions pour les véhicules électriques usagés.
Ça a été...
Ce matin, ça a sorti dans le journal.
Oui, c'est un programme qu'ils ont adapté. Là, c'est un programme qui existe depuis longtemps.
Mais il fallait que ce soit usagé, mais provenant de l'Ontario, si je me trompe pas.
C'est encore ça.
C'est encore ça?
OK. Si vous regardez pour un véhicule électrique, parce que cette subvention s'applique aux véhicules électriques seulement, donc 100% électrique.
Ouais.
On vient d'embarquer quelques nouveaux modèles là, depuis le 15 septembre. Là. Je sais qu'on a ajusté la liste. J'ai pas regardé la liste à jour, mais je sais qu'on vient d'ajuster la liste des véhicules admissibles. Mais 500-600 kilomètres, moi, je pense que vous devriez vous tourner vers du hybride régulier. Donc, si vous vous en allez dans l'usager, exemple la Prius, va vous rendre de meilleurs services parce que des véhicules de 2017 et moins, je sais pas si la Bolt est là-dedans. Peut-être la Bolt vient d'embarquer dans la liste, mais d'en trouver une d'occasion va être encore plus dispendieux, même avec le rabais, puis ça va être une voiture qui va provenir de l'extérieur du Québec. Alors, si vous pouvez vous trouver au même prix, vous allez vous acheter une Prius neuve. Alors, si vous réussissez à vous trouver une Prius d'occasion, pour faire vos 500-600 km, vous allez avoir de l'économie, vous allez avoir de la durabilité et la voiture va vous rendre de précieux services.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
D'ailleurs, il y avait un nombre. D'ailleurs, ce programme-là, il y avait un nombre. C'est un programme, c'est un projet pilote et c'était pour 1000 véhicules.
Ah oui, parce que c'est Daniel Breton qui écrit quelque chose sur l'élargissement de ces subventions-là ce matin.
Oui, ben c'est pas nouveau. Ça existe depuis tout le temps, depuis quand même un bon bout de temps. Là, ça fait plusieurs années. Et le programme, étant donné que c'est des véhicules d'occasion qui proviennent de l'extérieur du Québec, qui doivent s'en aller chez un concessionnaire, qui doivent être remis à jour du concessionnaire, parce que c'est souvent des véhicules ontariens, européens, provenant des États-Unis. Donc, on devait adapter les véhicules sur tous les livres. Il y avait un programme, le concessionnaire avait certains travaux à faire sur le véhicule. Une fois que c'était fait, on pouvait le mettre à vente. Donc, ça existe toujours, mais c'est pas très populaire.
L'objectif du programme, c'était de faire en sorte qu'on ajoute des véhicules électriques sur la route. C'est pour ça qu'elles ne sont pas applicables, s'il me semble, aux voitures électriques usagées du Québec. C'est que le gouvernement dit on rajoute pas de char électrique sur la route, vu qu'il est usagé, il est déjà sur la route.
Oui, mais on peut pas doubler, on peut pas. Tu sais, il y a déjà des programmes qui sont des incitatifs à l'achat importants. Donc, si deux ans plus tard, le véhicule a bénéficié de 13 000 $ de subvention ou 8 000 $ à l'époque de subvention, on vient ajouter un autre 4 000 $
Non, on peut pas.
Ça finit plus.
Alors, c'est pour ça que c'est uniquement les véhicules venant de l'extérieur. Il semble qu'il y a maintenant des véhicules venant des États-Unis qui sont éligibles dans ce programme-là, mais ça passe toujours de toute manière par un concessionnaire.
Bon, oui,
donc, la question au concessionnaire, c'est n'avez-vous un char électrique?
Il y avait 1000 programmes, mettons, qui étaient disponibles et après, je pense, deux ans, il y avait 40 ou 50 véhicules qui avait bénéficié de ce programme-là.
Donc, c'est un programme pas très efficace.
Tu as parlé de la Bolt tout à l'heure. Daniel, il y a quelqu'un qui demandait si la Chevrolet Bolt 2019, c'était fiable.
Oh, oui, c'est fiable. Les véhicules électriques, en général, présentement, je peux dire que c'est très fiable.
Qu'est-ce qui peut arriver comme problème mécanique sur un véhicule électrique?
Il n'y a pas de programme. À date, j'ai pas vu de problème mécanique. C'est des problèmes électriques ou électroniques qui peuvent survenir sur ces véhicules-là. Présentement, ça n'arrive pas. Donc, on est chanceux, ça n'arrive pas. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire... Parce que souvent, les freins sont peut-être un peu moins sollicités. C'est de faire nettoyer nos freins régulièrement. Okay. Et on n'aura presque pas besoin de les faire remplacer. Il y a des véhicules qui sautent le 100, 120 000, 130 000 km qu'on n'a pas remplacé les freins, simplement les faire nettoyer. On change les pneus, les pressions d'air et... Il n'y a pas vraiment de problème qui est relié à une voiture électrique. Poignées de porte. On peut avoir des petites affaires comme ça, mais rien de...
Durabilité des freins sur les voitures électriques, est-ce que c'est dû au fait qu'on a un frein moteur qu'on utilise plus?
Il y a le frein moteur et il y a la décélération aussi. C'est une décélération.
Donc, dès que tu lâches la pédale, il y a une décélération qui recharge ta batterie.
Mais ce n'est pas les freins qui sont sollicités pour décélérer. C'est le moteur électrique qui vire à l'envers. Donc... c'est comme un frein moteur de camion, là. Mais c'est le moteur électrique qui décélère la voiture et qui récupère l'énergie en même temps, qui crée de l'énergie pour recharger la batterie. Très efficace et ça sauve évidemment les freins. Donc, on n'a pas d'entretien à faire pour un bon bout de temps. Ça, c'est vraiment le fun.
Quel est le véhicule électrique que préfère le plus Daniel, 100% électrique?
100% électrique, présentement, je ne l'ai pas essayé encore. C'est la Porsche Taycan.
Mais tu l'as pas essayé, mais c'est ton préféré.
Oui.
Puis la Porsche, en plus.
C'est les chroniqueurs automobiles.
Non, mais avez-vous vu ce véhicule-là? Oui, c'est épouvantable. Ça vient de...
Écoute, plus que la Tesla.
On vient de parler d'un... Je vous parle là, d'un véhicule de 170 000 $
Oh!
OK. On va changer la question. Un véhicule électrique abordable.
Ouais, un véhicule électrique abordable... dans les abordables, pour moi, le Kona, c'est un véhicule que... Le type Kona, le Niro électrique, c'est des véhicules que je trouve qui ont un bon rapport qualité-prix.
OK.
100% électrique. Si on veut aller dans le milieu du 100% électrique, là, il y a le I-Pace du côté de chez Jaguar que j'ai vraiment aimé. Véhicule puissant, performant, logeable. Alors ça, mais là, on parle de 100 000 $. Alors, c'est dans le, c'est dans ces eaux-là. Mais le Taycan, là...
Non, mais je viens de le voir, là.
Tu viens de le voir.
C'est tellement un bolide de gars, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est genre la Batmobile, là.
Ben oui, c'est beau, c'est le fun.
C'est beau, c'est le fun, c'est ça, 50 000. On va laisser faire.
Ici, Dan, 16 ans.
Mais dans, ben là, c'est ça, c'est le fun.
Chez tous les
là,
conducteurs automobiles masculins, il y a un petit gars de 16 ans.
Ah, j'aime ça, j'aime ça.
Mais l'intérieur, c'est parce que c'est un véhicule électrique qui a de l'air d'un véhicule, entre guillemets, normal. Là. L'intérieur, l'extérieur, donc c'est il est très moderne et tout ça. Mais ils ont fait une erreur majeure du côté de chez Porsche avec ce véhicule-là.
Lequel?
Le Taycan. Parce qu'on arrive avec un véhicule, le modèle de base, c'est le Taycan. Et quand tu arrives avec un modèle un peu plus équipé, tu vas avoir un modèle avec un groupe d'options un peu plus équipé, ils l'ont appelé Turbo. Et l'autre modèle, ils l'ont appelé Turbo S.
Okay.
Dans la reste de la gamme, chez Porsche, tu peux avoir des versions Turbo ou des versions Turbo S de différents modèles. Mais là, tu as un véhicule électrique. Tu veux t'éloigner du terme Turbo. T'en okay. veux pas de Turbo. Il n'y a pas de Turbo.
Ils ont gardé leurs vieilles habitudes à place d'inventer une nouvelle gamme.
Ben oui, tu l'appelles le modèle S ou le modèle ST ou le modèle peu importe, là, mais tu t'appelles pas ça Turbo parce que tu es un véhicule électrique puis tu veux t'éloigner de Turbo.
Mon beau dame.
Le super E.
Demain, je t'arrive avec ce modèle-là puis je te dis, mais il s'appelle Turbo. Tu le prends-tu ou tu le prends pas?
Ben oui, je
ben voilà.
Oui, mais c'est la mise en marché qui est bizarre.
Je le prends, voyons.
N'importe quoi. Okay.
Tu le prends parce que...
Petite pause, il est 9h37. On a encore plein de questions, notamment sur des petits camions, etc. Là. On revient dans quelques instants.
Chronique Virage. Avec Daniel Boudreau.
Daniel, tu voulais nous parler de la grève chez GM.
Oui, la grève qui, évidemment, là, les enjeux sont à peu près toujours les mêmes. Donc, on veut ajustement salarial, mais aussi on veut préserver des emplois aux États-Unis. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même 50 000 personnes qui sont touchées aux États-Unis. On en a un peu moins ici, peut-être 1200 employés à Oshawa, sauf que... ici, au Québec et au Canada, on fabrique beaucoup de pièces.
OK.
Pardon?
Pourquoi à Oshawa, ils font la grève si le but, c'est de protéger des emplois aux
États-Unis?
Solidarité,
voyons. Myriam, solidarité.
Oui, mais c'est de la solidarité. Tu te tires avec une mitraillette dans le pied, là?
C'est la solidarité. Et là, moi, j'embarque pas là-dedans, mais quand tu as le même syndicat, souvent, tu as les mêmes causes. Alors, on est aussi en grève et ça va toucher aussi tous ceux qui fabriquent des pièces si, évidemment, ça s'étire ici. Au Québec et au Canada.
Ça peut prendre combien de temps avant que le consommateur qui a besoin d'une pièce le sente?
Bien, ça va prendre... Pour ce qui est des pièces, ça va prendre beaucoup de temps. Okay. Peut-être qu'au niveau des véhicules, si vous avez un produit GM en commande, là, on pourra avoir un délai important dans les prochaines semaines. Je sais que la nouvelle Corvette moteur central attire beaucoup de monde et il y a des précommandes. Donc, vous allez peut-être devoir attendre encore quelques semaines de plus pour avoir votre véhicule. Mais l'enjeu majeur... c'est pas vraiment le salaire dans ce cas-ci. C'est davantage les emplois aux États-Unis parce qu'on sait que quand un modèle arrive en fin de vie chez GM, on en profite souvent soit pour menacer de fermer l'usine ou encore la fermer carrément puis déplacer au Mexique ou dans d'autres marchés. Alors, on commence à comprendre un peu la façon dont GM fonctionne et là, on veut arrêter un peu ça.
OK. J'hésite entre deux petits camions, nous écrit Carl. Le nouveau Ford Ranger ou le Nissan Frontier 4 portes 2018?
C'est un choix qui n'est pas si facile que ça. Vous devez mettre peut-être le Tacoma ou peut-être le Canyon Colorado dans le portrait également. Entre les deux, le Ford Ranger, étrangement, même s'il vient seulement d'arriver ici, c'est pas un nouveau modèle. C'est un modèle qui a de l'âge. C'est un modèle qui roulait en Australie depuis fort longtemps dans d'autres marchés. Donc,
tous ces défauts sont sortis?
Ses défauts sont sortis, tout comme le Frontier a 1000 ans. Lui, je pense que il est arrivé en même temps que l'industrie automobile est née au début des années 1900. Le Frontier, il a de l'expérience également. Donc, au niveau motorisation, par contre, peut-être que le Ranger va vous donner un petit peu plus d'économie de carburant. Mais au niveau fiabilité, longévité, le Frontier, moi, je suis un ou l'autre. Dans le petit camion, là, ils se font pas de mal l'un et l'autre. Je vais vous dire qu'ils sont à peu près égaux. Donc, pour moi, j'irais peut-être... J'aime le style... peut-être un petit peu plus moderne là, du Ranger, mais si vous le gardez à long terme, tiens, court terme Ranger, long terme Frontier. Bon.
Ouais, ben là.
J'hésite un matin, c'est... là, c'est la maladie qui m'afflige qui fait ça.
Un an, deux ans, c'est quoi pour toi un court terme, c'est
3-4 ans.
3-4 ans? OK.
Long terme c'est 5-10 ans. Ouais.
Donc, il va dans le Nissan pour le long terme et dans le Ford pour le court terme.
Ouais.
OK.
Il faut trancher un jour.
Ben oui, Salomon Boudreau.
Il manque tourne autour du pot. Ah ouais, il accouche.
Il manque quoi, Daniel, au Tacoma pour se ramasser dans cette gamme-là?
Ben, c'est parce qu'il n'était pas dans les choix de la personne. Donc, si on met le Tacoma dans les choix, il devient numéro un immédiatement.
OK.
Ah oui?
Donc, son moteur, on a un nouveau moteur style Atkinson. Lui, il vient d'être revampé. Alors, pour moi, aussi, valeur de revente du Tacoma est très élevée, plus que les deux autres. Alors, si on met le Tacoma dans l'équation, paf, il tombe numéro un.
Prochaine question pour toi. J'aimerais acheter une EOS 2014 Comfortline avec 95 000 kilos, 100 000 kilos. Est-ce que c'est un bon achat et quel en serait le prix?
Au niveau du prix, je ne le sais pas. Je peux pas vous le dire tout de suite, mais si vous en trouvez un, dites-le pas à personne.
Pourquoi? C'est comme
une
denrée
rare. Vous partez, vous allez l'acheter et vous faites ça de nuit, si c'est possible. Vous repartez avec, vous le dites pas à personne. Ils sont rares, il n'y en a pas. Et
Pourquoi c'est rare de même, ce véhicule-là?
Ben là, ça commence à faire longtemps qu'on n'a plus là, sur la route. Et ceux qui sont là, les 90 000 kilomètres, ça, c'est de l'or en barre. Là, ils commencent à avoir des véhicules à kilométrage très élevé. Les problèmes vont sortir. Ça va commencer à être un peu moins intéressant. Mais c'est peut-être le véhicule qui manque le plus au marché.
Pourquoi?
Donc, petit véhicule, traction avant, toit dur, qu'on peut utiliser quatre saisons, la plupart des gens le voient passer, puis si tu sais pas que c'est un décapotable, tu penses que c'est un genre de golf. Alors,
c'est un ami qui en a un. Puis c'est fantastique de voir le toit ouvrir ou fermer. Il y a 27 petits moteurs là-dedans qui ils ouvrent des petits panneaux. C'est transformeur. Tu regardes ça aller, c'est transformeur.
Oui, puis...
C'est un Volkswagen
avec
qui
l'âge,
qui est pas
avec
très gros.
Avec l'âge,
hein?
Ça va devenir épeurant, ces 27 moteurs-là. Puis, tout le système du toit, puis ton décapotable va devenir un véhicule à toit dur un jour. Alors, c'est à faire attention avec le temps. Mais je pense que, moi, Volkswagen ont fait une erreur majeure. Probablement que ça coûtait cher à produire, je comprends. Puis, c'était pas un véhicule qui était donné à la base. Mais dans le marché, présentement, il n'y a rien qui arrive avec ça. Il n'y a rien qui arrive avec ce petit véhicule-là. Alors, si vous pouvez en trouver un, allez le voler. Puis, ben, le voler, entre guillemets, mais allez l'acheter au plus vite. On négocie même pas. Là. Il demande 13 500, vous offrez 14. Vous partez avec.
Ben, vois-tu, moi, j'ai des 20 000. Je regarde là, ce qui est disponible sur n'importe quel site, là, des gens qui en vendent, puis c'est tout autour de 20 000 $ là. Pour 2014 et
incroyable. Ouais. C'est 2014, c'est quand même un char de 5 ans.
Ouais. Vous offrez 21, vous partez avec.
On fait comme, tu sais, comme en Ontario, quand on vend une maison, là, elle se vend au-dessus du prix de vente.
C'est ça. Tu vas être sûr de l'avoir, il n'y a aucune façon. Et si toi, tu es la personne qui a un véhicule comme ça, tu négocies pas. Tu donnes ton prix, fini.
Pareil. OK. Le Volkswagen Atlas ou le Volkswagen Tiguan?
Atlas.
Pourquoi?
Atlas, parce qu'il est plus gros, il va mieux, il est tout mieux. Donc, et on peut avoir la version 3.6 dedans aussi. Alors, pour moi, c'est l'Atlas, un véhicule qui va mieux, qui est plus gros. Là. Donc, l'Atlas se situe entre le Touareg, là, si on se souvient du Touareg, donc c'est une catégorie supérieure. C'est comme si on parlerait du CR-V ou du Pilot, du RAV4 ou du Highlander. Donc, c'est la version plus haut de gamme. Et
la différence de prix entre les deux vaut la peine?
Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que le Tiguan, c'est pas... c'est un très bon véhicule que je recommande. Il n'y a pas de problème avec le Tiguan. Mais si on le compare avec l'Atlas, c'est pas pour rien qu'on a sorti un véhicule plus gros. Si on a besoin de plus d'espace, vous n'avez pas besoin de l'espace additionnel. On paye pas pour rien, mais ça va vous donner un meilleur confort, meilleure insonorisation et beaucoup plus d'espace. Donc, évidemment, il faut y aller dans ça. La seule affaire avec l'Atlas, c'est quand vous êtes placé directement en avant du véhicule et vous le regardez, là. Tu dis, le designer, là, force-toi. pourquoi tu t'es pas forcé un peu plus? Tu la regardes, là, puis t'as quasiment à dire, pau petit.
Est-ce que c'est vrai que certains modèles de Tesla ont des problèmes de peinture? On a vu des reportages.
Oui, c'est vrai. Tesla, là, pare-pierre, vous connaissez des pare-pierres, on dit, là, les pellicules plastiques à l'avant, on en met partout. Partout où vous pouvez en mettre, là, vous en mettez. Pour les éclats de peinture, surtout pour les bas de porte, vous allez voir un spécialiste. Maintenant, ils savent exactement quoi faire. Et vous faites protéger vos bas de caisse. Faites protéger l'avant du véhicule parce que la résistance de la peinture... Et nous, ici, on a beaucoup d'abrasifs. On a beaucoup de roches sur nos routes. Donc, ça résiste mal.
Mais ça paraît-tu sur ta voiture? Parce que, tu sais, la Tesla, à un moment donné, tu veux, oui, faire plaisir à l'environnement. Tu veux changer ton comportement aussi sur la route. Mais en même temps, tu flashes, là, avec une Tesla. C'est pas tannant d'avoir des pare-pierres un peu partout sur ta voiture?
Mais non, c'est transparent. Tu le sais même pas.
Tu le vois pas du tout.
Tu le vois pas du tout. Donc, c'est transparent, c'est bien fait.
Je reconnais le souci d'esthétique de Pascal.
J'ai une Tesla, je veux pas l'abîmer.
Ben là, t'as qu'à en avoir une.
Ben oui, mais ça paraît pas. Donc, tu vas le faire, évidemment, quand le véhicule est neuf. Tu vas le porter et il reste neuf.
Que pensez-vous du Mitsubishi Outlander 2016? Il pense à acheter un VUS. Fiabilité, valeur de revente et coût des pièces.
Coût des pièces raisonnable, donc c'est dans la moyenne. Même peut-être un petit peu en bas. Donc, au niveau de l'entretien, ça coûte pas cher, un Outlander. C'est fiable. Il va être encore garanti. Il est garanti jusqu'en 2026. Si c'est un 2016, donc c'est garanti 10 ans. Alors, aucun problème de ce côté-là. 2016, c'est dans les années, là, 2015, 2016, 2017, ils ont changé l'allure du Outlander. Là. Ils ont modifié son apparence pas mal parce que lui aussi, le designer, je sais pas ce qui s'est passé.
Il y a une crampe au cerveau.
Ah, il y en a eu quelques-unes et ils se sont ajustés dernièrement. Donc, si vous aimez le style au niveau de l'acquisition, il n'y a aucun problème pour ce qui est du véhicule. Mmh. Mais lui aussi, il faut protéger la carrosserie.
Il nous reste 2 minutes. J'ai encore plein de questions. Stéphanie, qui veut changer son Explorer pour un même genre de véhicule, mais qui consommerait moins, tu lui recommandes quoi?
Vous savez, dans les sports utilitaires pleine grandeur, parce que ce véhicule-là est un sport utilitaire pleine grandeur, essayez de vous trouver un véhicule avec un 2 litres turbo, mais là, vous changez un moteur qui consomme un peu plus. Donc, on est dans la catégorie des 6 cylindres ou à peu près dans toute cette catégorie-là pour un moteur qui va vous demander un peu plus d'entretien. Donc, il n'y a pas vraiment d'économie de carburant dans ce segment-là.
Il est mieux de garder son Explorer.
Vous changez de segment... ou vous assurez de trouver un véhicule avec une motorisation 4 cylindres dans cette catégorie-là, mais vous n'aurez plus les mêmes capacités de remorquage et tout.
Jeff veut une voiture pour son oncle, une voiture électrique qui pourrait aller en Floride.
Toutes les voitures électriques vont en Floride.
Il faut juste s'arrêter
votre
souvent.
Votre patience, est-ce qu'elle va se rendre en Floride? Jusqu'en Floride, la mienne, sûrement pas. Mais vous allez manger. Parce que quand t'as plus d'électricité, tu te branches. Puis
ça
tu
prend 2 heures
pas.
Minimum.
2-3 heures, 4 heures plus tard, tu rebranches, tu remanges encore. Donc, tu manges aux 4 heures, 3-4 heures.
Et il y a quelqu'un qui se demande, son épouse conduit une Camry 2004 à 225 000 kilos, plusieurs réparations. Que penser du RAV4 usagé à 75 000 kilos? Il y a un petit budget. Peut-être que c'est peut-être trop vieux pour elle. Elle fait quoi? Elle fait environ 5 000 km par an.
5 000 km par an. Go! On change tout de suite. Puis on s'acharne pas sur un véhicule qui commence à donner...
5 000 km par an, c'est rien, ça?
C'est
rien.
Ça. Le RAV4, ben, il va durer énormément longtemps. On protège la carrosserie et la rouille du véhicule.
Le temps est passé, ça se termine? Oui,
déjà?
Daniel, on se réinvite. Le jour de l'action de grâce, le lundi de l'action de grâce, on se reparle entre 9 et 10. On te garde une heure, puis on jase avec les auditeurs pendant une heure. OK? Ça va? Merci beaucoup à tout le monde. Merci aux auditeurs d'avoir été là. Merci Pascal Caron-Vézina.
Un plaisir.
Merci Alexis Sanson.
Un plaisir.
Et on se